Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris 93.9, votre émission bimestrielle d'archéologie. Bonjour à tous. L'exode rural, appréhendé durant la révolution industrielle, n'est plus. Nous assistons aujourd'hui à ce que l'on pourrait appeler la fuite des citadins, un repeuplement des campagnes vécu comme une désaffection des grandes villes. À ce phénomène s'ajoute la mobilité des populations, facilitée et accentuée par les technologies actuelles. Des termes comme périurbain ou banlieue proche brouillent ainsi les frontières entre villes et campagnes et font écho à une citation d'un poème de Nicolas Boileau écrit au troisième quart du XVIIe siècle. Paris est pour un riche un pays de cocagne, sans sortir de la ville il trouve la campagne. L'archéologie permet d'aborder ces questions à travers plusieurs disciplines. À la campagne, on parle d'archéologie environnementale, archéologie des paysages, des territoires ou de l'agriculture. En ville, l'archéologie urbaine ou archéologie du bâti sont autant d'appellations impliquant des thématiques et des axes de travail à la fois hétérogènes et complémentaires. Toutes permettent d'appréhender l'homme dans son environnement, son installation et sa pérennisation sur un territoire donné. Pour cette quatrième émission des pierres qui roulent, qui clôt ainsi notre session annuelle portant sur les dualismes, nous avons voulu interroger ces disciplines en se demandant à quel niveau s'opéraient les distinctions et les relations entre les pôles urbains et ruraux, et comment l'archéologie permettait d'y apporter un regard nouveau. Pour discuter de ces thématiques aujourd'hui, nous serons accompagnés par Guillaume Mitorel et Léa Hermenot, tous deux doctorants au laboratoire Arscan. Guillaume Mitorel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant donc à Paris-Ouest Nanterre en archéologie gallo-romaine et vous travaillez notamment sur l'instrumentum fundi, l'équipement donc de la production domaniale des établissements ruraux du nord de la Gaule. Léa Hermenot, bonjour également.
Bonjour.
Vous êtes doctorante donc à Paris 1 et quant à vous, c'est l'archéologie médiévale qui est au cœur de vos travaux de recherche et plus particulièrement la ville de Paris.
Exactement.
Et le rôle donc des flux de circulation dans sa fabrique urbaine. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être accompagnés par Alain Ville, qui est donc conservateur du patrimoine ici, au Musée d'archéologie nationale où nous sommes accueillis. Et donc vous êtes en charge des départements du néolithique et de l'âge du bronze. Bonjour Alain Ville.
Bonjour.
Et merci de votre présence.
Je vous en prie.
Last but not least, Lydia, qui me prête main forte. Bonjour Lydia.
Bonjour Enora.
Pour mener le débat donc aujourd'hui. Et Émile, notre chroniqueur, qui nous fera une belle chronique tout à l'heure. Bonjour Émile.
Bonjour Enora.
93.9, Campus Paris.
Grâce à la présence d'Alain Ville, on va pouvoir introduire cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut comprendre justement cette implantation et ces regroupements humains?
Alors, au néolithique et à l'âge du bronze, il n'y a pas de cité à proprement parler, en tout cas dans nos régions occidentales de l'Europe. Il faut d'abord souligner un premier fait, c'est que dès le début du néolithique, il y a une distinction, une différence notoire entre l'Occident, disons, tempéré, ou même le vieux monde, globalement non méditerranéen, et puis les régions méditerranéennes et un peu plus orientales. Dans ces dernières régions qui ont vu la naissance du néolithique autour du 9e, 10e millénaire avant notre ère, les regroupements humains qui préfigurent les cités, en tout cas les premiers villages denses, apparaissent très tôt, avant même d'ailleurs le néolithique, dans le cadre de civilisations de prédateurs qui vivent d'un milieu naturel où les céréales sauvages sont abondantes, ainsi que le gibier. Dans ces régions, il y a des agglomérations qui, sans être des villes à proprement parler, sont tout de même le mode d'organisation du territoire privilégié. La population humaine est regroupée dans des villages relativement denses, dont les maisons sont très serrées, parfois même se communiquent uniquement par l'intermédiaire des toits. Le territoire alentour est géré par cette concentration humaine. Dans l'Occident plus septentrional, et dans nos régions en particulier, c'est le phénomène inverse. Le territoire est essentiellement rural. on ne connaît pas de concentration urbaine à proprement parler. Et au lieu d'avoir une opposition entre des groupements de population dans des villages importants et un territoire vide alentour et qui est un petit peu l'intervalle entre les villages, eh bien on a en fait des hameaux, des fermes qui pratiquement sont au regard, à la vue, les uns des autres et qui constituent l'humanisation de ce territoire. Si bien que même s'il y a des régions qui ne sont pas encore cultivées, des grandes étendues forestières, l'ensemble du terroir est tout de même maîtrisé et connu par la population. Et puis, et tout dépend évidemment de notre définition de ce qu'est une ville, il faut attendre la conquête de la Gaule, des Gaules, par les armées romaines en 54 avant Jésus-Christ, pour que le phénomène urbain apparaisse dans l'Occident. Alors, c'est le modèle de la ville romaine qui s'impose, mais en fait, il se surimpose à des concentrations difficiles à définir. À l'époque où César conquiert la Gaule, une certaine complémentarité entre un territoire rural qui reste très dense et ce qu'on appelle les oppidas, des cités. D'ailleurs, César emploie des termes hiérarchisés qui montrent qu'il y a une gradation entre ce qu'on pourrait appeler des villes et puis des agglomérations secondaires. Et on n'est pas sûr, à l'époque de César, qu'elles soient occupées en permanence. Elles sont occupées en permanence par un minimum de population qui les structure, qui en entretiennent les fortifications et les remparts. Ces fortifications ont un rôle, on pourrait dire, de repère, un rôle ostentatoire, on dirait un rôle de prestige aussi dans le territoire. C'est un petit peu comme la Tour Eiffel pour identifier Paris ou Notre-Dame de Paris. Alors, leur fonction est probablement de regrouper des fêtes, des marchés, des réunions politiques, d'autres réunions, probablement aussi des festivités religieuses. Et puis, du fait de leur fortification qui s'intensifie d'une façon extrêmement forte dès que la menace de Rome se précise, ces villes sont investies par des quartiers importants. C'est un petit peu le phénomène quasi du château fort à l'époque. On se réfugie, mais en même temps on arme ces cités et elles deviennent des bastions et des enjeux pour la guerre. Ce que l'on sait pour le territoire de ce qu'on pourrait dire, disons, on pourrait appeler la France, même l'Italie du Nord, l'Allemagne et la plus grande partie de l'Europe centrale à l'époque proto-historique, disons à l'âge du bronze et à l'âge du fer, c'est qu'il y a des grands terroirs, des territoires, peut-être des sortes de royautés ou de principautés, des chefs-lieux, mais pas des villes selon la définition qui est héritée de la civilisation romaine.
Alors justement, quelle est cette définition de la ville et est-ce que ce terme peut s'appliquer à ce qui se passait avant les Romains ?
Une ville, une cité, c'est non seulement un chef-lieu, mais c'est aussi une concentration de population, donc une complémentarité entre un territoire rural qui approvisionne en denrées alimentaires, mais qui n'est pas densément peuplé, et une concentration humaine à l'abri de fortifications sur un site qui est repérable aisément dans le territoire. Et d'autre part, c'est à l'intérieur de cette cité une organisation architecturale, des repères emblématiques, des monuments, on pourrait dire des bâtiments civils en quelque sorte, qui jouent un rôle dans la gestion de la cité. Et ces cités, entre celles qui abritent les chefs-lieux de royauté et puis les agglomérations secondaires, organisent, structurent un territoire. Auparavant, pratiquement jusqu'au IIe siècle avant notre ère, les services que les cités rendent aux campagnes et réciproquement dans le cadre d'un réseau extrêmement dense, ces services existent, mais restent à bien des égards mystérieux pour les archéologues. Pourquoi ? Eh bien, faute de textes et faute aussi de connaître la totalité des structures archéologiques sur l'ensemble du terroir. Il faudrait faire des fouilles sur des milliers d'hectares, en fait, et pas seulement sur des centaines comme on le fait à l'heure actuelle. On ne sait pas comment fonctionne ce système en réseau. Mais en tout cas, il fonctionne en réseau, c'est un fait. Il y a des voies de communication qui remontent d'ailleurs au début du Néolithique, certainement, étant donné le trafic d'objets rares ou de matières premières dès les débuts de la sédentarité, pratiquement depuis le Proche ou le Moyen-Orient jusque les côtes atlantiques. Il y a des réseaux, il y a des circuits. Je ne dis pas qu'il y a des cartes, mais en tout cas, il y a une mémoire des grands voyages, des grands itinéraires dans la tête des marchands. Et puis, à mesure que le territoire se densifie et que l'élite sociale s'affirme, notamment à l'âge du bronze, eh bien, il y a un fonctionnement en réseau, il y a des relations, on pourrait dire des services entre les élites grâce à des communications fréquentes, par voie fluviale, par voie terrestre, mais on a du mal à identifier les grands centres. La question donc qui se pose, c'est le mode de fonctionnement qui nous est encore en partie inconnu, faute de fouilles, à mon avis, suffisante sur des centres importants. Ces sites semblent avoir été occupés d'une manière constante, pratiquement depuis le milieu, peut-être même le début, en tout cas au moins le milieu du néolithique, en gros le 4e millénaire avant notre ère jusqu'à l'époque gauloise, et les occupations successives se télescopent et s'oblitèrent les unes les autres. Donc il est difficile, à moins d'avoir une politique de sondage systématique qui n'est pas encore en place, de repérer les sites sur lesquels on pourrait faire la distinction par des fouilles méthodiques entre des sites principaux et des sites secondaires pour toutes les périodes. Si bien que la continuité de fonction, de leadership de ces sites, pour l'instant, demeure, je ne dis pas un mystère ou une énigme, mais en tout cas une inconnue. Voilà. Ce que l'on peut au moins dire, c'est que chaque fois que des fouilles importantes ont eu lieu, soit lors de recherches à l'initiative d'un grand chercheur, je pense au site du Fort Aroir en Eure-et-Loire, fouillé par l'abbé Philippe pendant la première moitié du XXe siècle, je pense à des fouilles plus anciennes à l'occasion de la recherche des événements historiques de la guerre des Gaules à l'initiative de Napoléon III, en particulier dans la région de Compiègne, eh bien on a découvert que certains sites qui n'étaient pas des chefs-lieux identifiables dans la guerre des Gaules comme des places fortes gauloises ou des enjeux militaires importants, avaient été très fortement occupés à l'âge du bronze et occupés dans le cadre de productions spécialisées, en particulier métallurgiques. Il y a des sites dans lesquels l'artisanat métallurgiste se développe pratiquement depuis le début jusqu'à la fin de l'âge du bronze d'une façon permanente, ce qui pourrait expliquer un certain rôle, en tout cas, dans le trafic, dans les échanges à cette époque. Alors, dernière précision, à l'âge du bronze, il faut du cuivre, comme vous le savez, de l'étain, un dosage bien particulier pour produire des armements, des tôles, de la parure, de l'outillage, qui remplace progressivement l'outillage en silex des époques précédentes, alors que le bois de serre, l'os et encore en partie le silex continuent à être abondamment utilisés. Et ces nouveaux équipements sont produits dans toutes les régions françaises sans distinction. Or, toutes ces régions ne sont pas dotées de gisements naturels de cuivre et, en plus forte raison, d'étain, qui sont encore plus rares. Il y a donc un fonctionnement en réseau qui permet à toutes les régions, pratiquement d'une façon égale, de s'approvisionner. Il est évident que ces circuits ne peuvent fonctionner que s'il y a des points ou des centres névralgiques. Peut-être a-t-on identifié quelques-uns de ces points ou centres névralgiques par l'intermédiaire de quelques sites où on a trouvé une métallurgie importante à l'âge du bronze, mais la plupart restent encore à trouver. Ce sont peut-être les noyaux des organisations territoriales proto-historiques, mais ils préfigurent et en même temps ils remplacent et rendent, si on peut dire, inutile la cité au sens antique du terme. Et l'archéologie, là, a d'énormes travaux encore de recherche à faire pour répondre aux questions qui restent posées. In a city life, in a city pressure, the concrete world is starting to get you. The city is alive, the city is expanding, living in the city can be demanding. You've pawned everything, everything you own, your toothbrush, jar and a camera phone. You don't know where you're going, you cross the street. You don't know why you did, you walk back across the street. Standing in the sitting room, totally skint, and your favorite jersey is covered in lint. You want to sit down, but you've sold your chair, so you just stand there. You just stand there.
City pressure. Counting coins on the counter of the 7-Eleven from a quarter past six till a quarter to seven. The manager, Bevan, starts to abuse me. Hey man, I just want some muesli. Neon signs, hidden messages, questions, answers, fetishes. You know you're not in high finance, considering secondhand underpants. Check your mind, how'd it get so bad? What happened to those other underpants you had? Look in your pockets, haven't found a cent yet. Lanterns on your balls,
have you paid your rent yet?
In a city pressure. City pressure.
Merci beaucoup Alain Ville pour cette belle introduction qui reprend beaucoup de choses que nous allons pouvoir développer par la suite. On comprend effectivement l'importance donc des limites, hein, des frontières pour définir une ville et comment se peut se faire sa définition de la ville et quelles sont ces pluralités que l'on va aborder. On comprend également l'importance donc des spécialisations économiques dans la formation de ces villes et puis des réseaux qui permettent de comprendre que c'est peut-être la production qui a permis justement ces liens et ces différents flux entre villes et campagnes. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se tourner vers les diverses définitions qui existent. On parle de ville, village, campagne, territoire, province, habitat isolé, habitat groupé, agglomération. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre tous ces termes? On va pas faire une liste exhaustive, mais sur quoi ces différences finalement sont fondées? Guillaume Mitterel, vous parlez dans votre travail d'habitat isolé et d'habitat groupé. Comment est-ce qu'on peut faire des définitions assez simples finalement de ces termes? Et est-ce que c'est possible de faire des définitions simples de ces termes?
Oui, enfin, habitat isolé et groupé finalement, c'est une définition presque de géographe. Mmh. C'est une manière simple de dire que les occupations des campagnes, ce qu'on va appeler donc des villas, des fermes indigènes ou encore des établissements ruraux, c'est des choses qui sont des unités, qui sont seules. Et on va opposer ça aux villes, donc qu'on va caractériser comme des habitats qui sont groupés, agglomérés. C'est peut-être là où ça se complique, puisqu'en fait, c'est difficile après de mettre un terme spécifique sur ces occupations, puisque pour le cas des campagnes, effectivement, on va avoir le terme de villa, qui est un terme d'abord latin, et il faut d'abord voir que chez les latinistes, il y a déjà plusieurs définitions qu'on peut donner au terme de villa, puisque pour certains agronomes latins, ça va être vraiment une unité agricole, avec donc une part urbana et une part rustica. Mais si on va dans d'autres textes latins, par exemple les écrits de Pline le Jeune ou de Sidoine Apollinaire, là on est dans des villas au sens presque médiéval de château, avec du luxe, avec des, voilà, les gens qui vivent qui sont des notables. Donc déjà, quand on voit que le terme latin a plusieurs sens, c'est vrai que c'est un terme qui est difficile à utiliser. Il y a un consensus autour de ce terme pour dire qu'il s'agit des établissements ruraux. Dans ce cas-là, comment définir une occupation qui est plus petite? Donc là, on va avoir des termes comme ferme ou ferme indigène qui ont un sens presque péjoratif. Et surtout, si on oppose grand à petit, qu'est-ce qu'on fait des habitats, j'ai envie de dire moyens, qui ont des superficies qui sont entre la ferme indigène et la villa?
Léa Hermenot, au Moyen-Âge, comment est-ce qu'on définit une ville et surtout comment on la définit par rapport à ce qui se passe autour?
Alors, la définition de la ville, évidemment, est assez complexe, mais il y a quelque chose sur lequel arrive à se mettre d'accord à la fois historien et archéologue et même géographe, c'est la nécessité d'avoir un couple diversité-densité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de monde sur un plus petit espace. Tout le problème va résider après dans... À partir de quand est-ce qu'on, à partir de quel seuil est-ce qu'on décide que un certain type de diversité sur une certaine densité va pouvoir mériter le mot de ville. Donc là, la question, elle est là. Pour reprendre la question du vocabulaire, le mot ville que l'on emploie aujourd'hui pour caractériser la forme de l'urbain est issu en fait ce mot de non pas donc du mot latin qui désignait la ville, qui est le mot urbs, mais du mot villa, justement, dont vient de parler Guillaume, et qui, en fait, donc, désigne l'exploitation rurale. Donc, vous voyez bien un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on prend un mot pour désigner quelque chose de type rural, pour justement caractériser l'urbain. Et le mot ville, en fait, dans les textes, fait son apparition de manière assez tardive, en fait. On commence à le voir apparaître au 12e, un petit peu, timidement, et surtout, en fait, au 13e siècle. C'est un vocabulaire assez récent. Après, le Moyen-Âge, c'est une très très longue période, c'est plus de 1000 ans, et le Moyen-Âge est un petit peu coincé, notamment ce qu'on appelle le premier Moyen-Âge, c'est-à-dire, en gros, la période qui va du 5e au 11e, 12e siècle, est un petit peu coincé entre les villes antiques, qui sont plutôt bien connu, on arrive un peu à cerner la matérialité grâce à l'archéologie, mais aussi grâce au texte. Et puis les villes que nous connaissons, qui sont les mères en fait des villes dans lesquelles nous vivons, les villes de la Renaissance ou de la fin du Moyen Âge. En gros, l'armature urbaine française actuelle est pratiquement déjà en place dès le XIVe siècle. Ça n'a pratiquement pas bougé. Et donc entre le Ve et le XIVe siècle, on est un petit peu, on ne sait pas trop quoi faire. C'est-à-dire qu'on part d'un type bien identifié de ville. Et on aboutit à un type bien identifié de ville. Mais entre-temps, on sent bien que les choses changent énormément. L'archéologie nous le montre, notamment ces 10-20 dernières années. Les phénomènes changent énormément et on a du mal justement à caractériser justement ce type de ville-là.
Et aujourd'hui, on parle beaucoup donc de la notion de périurbain. Est-ce que vous l'abordez dans vos travaux ou est-ce que ça existait au Moyen-Âge ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, de manière générale, on s'accorde pour dire que le périurbain, c'est tout ce qui est autour, en dehors de la ville, c'est-à-dire en dehors de l'enceinte qui enclôt la ville. C'est quelque chose qui est bien abordé en archéologie, pour des raisons tout à fait simples, c'est-à-dire qu'on ne construit presque plus dans la ville. On va surtout, quand on construit de nos jours, construire à l'écart de la ville, donc dans la sphère périurbaine. Ce qui fait que, on a tendance, grâce à l'archéologie préventive, à documenter plus facilement ces dernières années la zone périurbaine que la zone urbaine, enfin le centre historique en fait des villes. Donc on commence à avoir plein de données sur cette zone périurbaine qui en fait est une zone un peu de transition entre la ville et le milieu rural en fait. C'est un peu une zone tampon, on a du mal à la caractériser, on n'est ni dans la ville mais on n'est ni dans le rural non plus. En tout cas on est dans une zone qui développe de très très fortes interactions à la fois avec la ville d'un côté et à la fois avec la campagne de l'autre.
J'aimerais qu'on revienne vous parler tous les deux de beaucoup de types de sources que vous utilisez, donc des textes, Guillaume, vous nous en avez parlé, puis beaucoup aussi d'autres types d'études, carpologie notamment. Quelles sont justement ces différentes sources que chacun de vous deux utilisez dans vos travaux, plus spécifiquement, Guillaume?
Pour la période romaine, c'est vrai qu'on a la chance par rapport aux périodes précédentes d'avoir beaucoup de sources. Donc on va avoir effectivement les textes, on va avoir aussi beaucoup d'images, l'iconographie peut avoir aussi son importance dans certaines études, donc les études environnementales, et maintenant de plus en plus le recours aussi à l'ethnologie par exemple, qui va permettre peut-être parfois de faire de nouvelles hypothèses sur des structures de la société, des choses comme ça. Après, toutes ces sources ont des limites. Dans mon cas, je travaille sur le nord de la Gaule, et les sources textuelles, par exemple, moi j'utilise beaucoup les agronomes latins, sont des Italiens. Et donc du coup, la réalité qu'eux nous donnent dans leurs textes est sûrement assez éloignée de la réalité qu'on a dans le nord de la Gaule. Donc il faut toujours les prendre avec des pincettes. C'est la même chose avec les images. Si on a une image qui vient d'Italie, on ne peut pas l'appliquer au stricto sensus sur ce qu'on a en Gaule.
Et quand vous parlez d'image, c'est sur quel type de support, par exemple?
Pour prendre un exemple, on a ici à Saint-Germain-en-Laye, un calendrier rustique en mosaïque qui vient de Saint-Romain-en-Galles, qui représente les mois de l'année à travers les activités agricoles. Donc ça permet un peu de réfléchir sur la division de l'année, des activités qu'il y avait dans les campagnes. Et donc là, on est sur une mosaïque. On peut avoir des peintures murales ou, par exemple, on peut avoir des outils qui sont représentés sur des stèles funéraires.
Quels sont les apports des sources ethnologiques?
Par exemple, quand on est confronté à un outil ou à un bâtiment agricole, il y a trois choses même à comprendre, c'est sa forme. Donc là, l'archéologie va vraiment aider puisqu'on va avoir l'équipement dans son matériau, ses dimensions. Son fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont on va l'utiliser. Et enfin, sa fonction, son utilité, à quelle fin on l'utilise. Et l'ethnologie va, par exemple, être très intéressant pour tout ce qui est fonctionnement. C'est-à-dire, on a une faucille de telle dimension qui va peut-être, par exemple, avoir des petites dents. Et on a des exemples encore actuels de populations dans le monde qui vont utiliser ce type de faucille. Donc on peut observer et essayer de tirer des hypothèses sur la manière dont elles sont employées. Ça se rapproche également un peu de l'archéologie expérimentale.
Qu'est-ce que c'est, l'archéologie expérimentale?
L'archéologie expérimentale, c'est, on va dire tout simplement, refaire un outil ou refaire une structure, un bâtiment, et l'essayer avec un protocole scientifique qu'on va établir afin d'en tirer des conclusions. Ça a été fait dans les années 70 par des Anglais. Ils ont refait un séchoir fumoir, ils l'ont essayé de l'utiliser et ont pris tout un tas de mesures de température, etc., pour essayer d'en tirer des conclusions. Aujourd'hui, on a aussi l'apport des nouvelles technologies et on va pouvoir, en plus de refaire le matériau en vrai, on peut aussi faire des simulations 3D pour des bâtiments, des choses comme ça.
Léa Hermenot, de votre côté, au Moyen-Âge, on travaille plus sur des sources planimétriques, si j'ai bien compris?
Alors en fait, ce qui est un petit peu piège entre guillemets pour le Moyen-Âge, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de documentation que ce qu'on pouvait avoir auparavant. On a à la fois de l'archéologie, mais on a beaucoup de textes, on a beaucoup d'iconographie, et on a effectivement les premiers plans qui apparaissent en gros à partir du XVIe siècle. Toute la difficulté, c'est qu'il faut réussir justement à faire le tri dans cette documentation-là. Et justement, le fait qu'il y avait notamment une documentation textuelle assez abondante pour la période médiévale fait qu'on a longtemps considéré que ce n'était finalement pas la peine de procéder à des fouilles archéologiques, puisque en gros, on pouvait avoir tout ce dont on avait besoin dans les textes. Justement, l'archéologie montre qu'il se passe des choses un petit peu différentes entre ce qu'on vous lit dans les textes et ce qu'on voit dans la réalité. justement la disjonction entre urbain et périurbain, par exemple, c'est une notion qui est bien présente dans les textes parce que ce sont des définitions juridiques. Pour administrer ces territoires, il faut les définir précisément. Et donc, dans les textes, la différence est bien faite. Par contre, lorsque l'on fouille, quand l'on compare la ville et le périurbain en archéologie, on va peut-être moins sentir en fait ces différences. Quand on est dans un endroit, on ne voit pas d'enceinte. Eh bien, on a du mal à savoir si on est dans la ville ou à l'extérieur de la ville. Donc, l'archéologie est là aussi pour un petit peu contrebalancer parfois les dichotomies que l'on peut lire dans les textes. Il ne faut pas du tout dire qu'une discipline a raison ou une discipline a tort. Là n'est pas du tout la question. C'est juste de dire qu'il y a plusieurs façons de définir la ville et le périurbain et les relations ville-campagne. Et chacune des disciplines en fait apporte sa pierre à l'édifice.
En parlant d'édifices, justement, vous travaillez également sur l'archéologie du bâti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça vous permet de travailler différemment sur votre sujet de thèse ?
Alors effectivement, l'archéologie du bâti, c'est aussi quelque chose qui est assez récent, c'est quelque chose qui est né dans les années 80. Le principe est de dire qu'on n'a pas forcément besoin de prendre la pioche, la truelle et la pelle pour récupérer des informations archéologiques. On peut tout à fait faire des observations de type archéologique sur des bâtiments qui sont encore en élévation. Peut-être que cela vous est déjà arrivé, quand vous vous trouvez face à un mur ancien, vous allez pouvoir repérer une fenêtre bouchée ou un départ d'arc, des pierres qui ne sont pas tout à fait disposées par rapport aux autres. Et ça, en fait, ce sont des... Cela peut être considéré par les archéologues du bâti comme autant de strates, non plus stratigraphiques comme on peut les trouver dans les chantiers archéologiques, mais en élévation. C'est-à-dire que l'on va pouvoir repérer chaque forme en fait, sur le mur qui va correspondre à un type d'action, une activité et donc une phase de construction du bâtiment. Et cela permet en fait, d'aborder l'évolution du bâti urbain, chose qui est en fait, très compliquée à obtenir sinon, puisque les bâtiments sont à raser. En fait, hein. Donc là, ça nous permet de faire avec les informations dont on dispose encore, c'est-à-dire les bâtiments qui sont encore en élévation.
Merci Léa Hermenot. On va faire une petite pause chronique grâce à Émile qui va nous parler d'un sujet que nous allons découvrir.
Ah ben ça j'espère, sinon je ne parlerai pas. La chronique s'appelle « Quand la ville jaillit de la campagne, urbains et ruraux au mésolithique ». Même les mots les plus simples, les concepts les plus évidents ne résistent pas longtemps à l'expérience de pensée qui consiste à remonter le temps et à les appliquer telles quelles à une époque lointaine. Illustration. Prenons les mots qui composent le thème d'aujourd'hui, par exemple. Des villes et des champs. Et transportons-les dans l'Europe mésolithique, celle qui voit il y a 6 à 7 000 ans le déclin des populations de chasseurs-cueilleurs présentes depuis déjà des dizaines de millénaires en Europe et l'essor du mode de vie agricole venu de la Mésopotamie puis passé par la Grèce et la Bulgarie. Peut-on y voir des villes, des cités ou même des villages comme on les connaît aujourd'hui ? Non. Peut-on y voir des champs comparables aux nôtres, ces grandes étendues d'espèces triées sur le volet et parquées dans des rectangles respectant parfaitement la géométrie euclidienne ? Non plus. Mais faut-il pour autant jeter dans la poubelle des concepts anachroniques l'urbain et le rural quand il s'agit d'étudier les sociétés préhistoriques ? Non, bien sûr. Rassurez-vous, cette émission a du sens. Si l'on accepte de remanier un peu nos concepts de rural et d'urbain, je crois au contraire que les recherches les plus actuelles sur la cohabitation des populations du paléolithique européen avec celles porteuses du néolithique mésopotamien peuvent être lues comme les prémices préhistoriques de l'antagonisme citadin-ruraux. Pour vous convaincre, je vais vous citer les travaux d'une équipe d'archéologues allemands de l'université de Mayence ayant fouillé une grotte près de Hagen. Cette grotte a connu deux périodes d'occupation, la première avant que les agriculteurs du Moyen-Orient n'aient commencé à essaimer en Europe, et la seconde entre il y a 6000 et 5000 ans pendant ce processus. Les fouilles et les analyses paléogénomiques ont révélé que pendant cette seconde période d'occupation, trois populations distinctes vivaient au voisinage les unes des autres et enterraient leurs morts au même endroit. Une population de chasseurs-cueilleurs, une population de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et une population d'agriculteurs-éleveurs. Je vous propose d'interpréter les relations entre les agriculteurs-éleveurs et les chasseurs-cueilleurs ou les chasseurs-cueilleurs-pêcheurs comme une forme prototypique de la relation entre urbains et ruraux. Cette comparaison est un peu paradoxale, dans la mesure où ce sont les agriculteurs-éleveurs qui, dans mon modèle, jouent le rôle des urbains, tandis que les chasseurs-cueilleurs nomades jouent, eux, le rôle des ruraux. C'est qu'en fait, ce qui semble être le principal critère de distinction entre le mode de vie rural et le mode de vie urbain est la densité de population. Or, peut-être la densité et la diversité. Or, c'est bien l'agriculture, d'abord sans domestication des espèces végétales, puis avec domestication et sélection artificielle des espèces, qui a entraîné une sédentarisation progressive des hommes et, couplée à l'invention de méthodes de séchage et de stockage des aliments, a permis à la population d'augmenter considérablement. Donc, d'une certaine façon, ce sont les paysans qui ont inventé l'urbain. C'est en campagne que la ville est née. Mais revenons aux relations entre agriculteurs et nomades. Aux relations entre agriculteurs et nomades au Mésolithique européen. C'est Jean-Claude Amezen qui, dans un épisode de sa superbe émission sur les épaules de Darwin, à l'interface de la biologie, de l'anthropologie, de la psychologie et des arts, revenait sur les découvertes passionnantes qui ont fait des anthropologues et des archéologues allemands.
Cette population d'agriculteurs qui enterraient leurs morts dans la grotte de Blätterhöhle avait donc parmi ses ancêtres maternels des femmes des populations d'agriculteurs du Moyen-Orient et aussi des femmes des populations de chasseurs-cueilleurs d'Europe. Mais il n'y a pas dans l'ADN des mitochondries des chasseurs-cueilleurs et des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs de composantes de la généalogie maternelle qui remontent aux agriculteurs du Moyen-Orient. L'étude suggère donc qu'il y avait très probablement des unions entre des hommes agriculteurs du site et des femmes des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivaient à proximité, ou qu'il y avait eu des unions entre ces populations dans le passé, mais qu'il n'y avait pas de traces de l'existence d'unions entre des hommes chasseurs-cueilleurs ou chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et des femmes des populations d'agriculteurs. Dans cette région d'Europe centrale, parmi les interactions et les échanges qui ont dû se produire entre ces trois populations durant un à deux millénaires, il y a très probablement eu des unions et des mariages, mais principalement ou seulement dans un sens, du moins en ce qui concerne les femmes.
Sur ce cas-là, dans cette population-là, où il y a eu cohabitation entre des agriculteurs et des chasseurs-cueilleurs pendant plusieurs milliers d'années en Europe centrale, vous avez une domination des agriculteurs-éleveurs qui s'exercent sur les chasseurs-cueilleurs par le fait que l'échange des femmes se fait uniquement à leur profit. En gros, c'était ça l'idée, qu'on pouvait trouver quand même, même au Mésolithique, de quoi utiliser les concepts d'urbain et de rural pour comprendre les découvertes faites par les archéologues.
Tu parles de relations, donc de relations entre humains. Donc j'aimerais maintenant qu'on passe à une partie qui suit hein, notre introduction et les définitions qu'on a pu faire des différents termes pour comprendre justement, une fois qu'elles sont nées, ces zones rurales et ces zones urbaines, qu'est-ce qu'il advient et qu'est-ce qui les pousse à être dans une relation. Ce qui va nous permettre de parler très rapidement de l'historiographie de vos deux périodes, hein, le gallo-romain et le Moyen-Âge, dans la compréhension donc des mondes ruraux et des mondes urbains. Pour ce qui est du gallo-romain, vous m'avez confié qu'il y avait un travail sur le monde rural antique qui avait été très fort, mais pas de la bonne manière, Guillaume Huitorel.
Oui, effectivement, l'historiographie des campagnes gallo-romaines n'est pas un chemin droit. Rapidement, dès le XVIIIe siècle, on a une vision très négative des campagnes et de l'agriculture, avec des villas qui vivent en autarcie. Et en réalité, il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour avoir quelques avancées. Parce qu'il y avait effectivement des chercheurs qui avaient déjà travaillé sur ces questions. Mais archéologiquement, une des premières avancées est peut-être la prospection aérienne, qui a permis de découvrir de nombreux établissements ruraux dans les campagnes de Gaule romaine, ce qui a permis d'enlever cette image d'une campagne qui est assez pauvre, avec peu d'occupation du sol et des grandes villas. On se rend compte finalement qu'on a beaucoup de choses. Ensuite, on a un vrai bond, on va dire, dans la deuxième moitié des années 80 et surtout dans les années 90, avec le véritable développement d'une archéologie agraire, notamment la mise en place d'études environnementales sur les graines, sur les pollens, l'archéozoologie également, et surtout un développement de l'archéologie préventive et surtout de grands décapages en ce qui concerne les campagnes, ce qui a permis de fouiller de nombreux sites, de nombreuses occupations rurales, et surtout aussi les zones qui sont entre les sites. Puisque quand on fait de l'archéologie préventive par rapport au programmé, ben on ne choisit pas ce qu'on fouille. Par exemple, on ne va pas se contenter que de fouiller la partie résidentielle avec le luxe de certaines villas.
Et vous parlez justement d'une fixation finalement sur la pars urbana dans les campagnes. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelle est la différence avec la pars rustica d'un site de campagne?
Alors, dans la définition de certains agronomes latins de ce qu'est la villa, ils parlent de pars urbana et de pars rustica ou fructaria. Donc, pars urbana, la partie résidentielle, Et par rustica, la partie où on va voir les bâtiments agricoles type grenier, étable. Et en fait, du coup, cette historiographie a fait que pendant longtemps, on s'est contenté de fouiller la part urbana, qui, surtout sur les grands établissements ruraux, les villas, pouvait contenir des thermes, des salles de réception et au niveau mobilier, par exemple, des bijoux. Et finalement, on avait une vision de l'occupation des campagnes qui était focalisée sur ce luxe au détriment de la partie rustica, avec les équipements agricoles, artisanaux qui peuvent s'intégrer dans ces occupations.
Guillaume, quels sont ces équipements qu'on peut encore retrouver aujourd'hui ?
Alors, on va avoir des équipements donc mobiliers, donc l'outillage, des faux, des faucilles, des équipements pour l'artisanat du métal, par exemple. Et au niveau des bâtiments et des infrastructures, on peut avoir des greniers construits en pierre et d'autres en matériaux périssables, des étables, des fours de potiers, par exemple, de tuiliers, des structures sur lesquelles je travaille en ce moment, les séchoirs fumoirs, qui sont des structures peut-être pour sécher les céréales ou fumer de la viande.
Donc, d'une certaine manière, la pars rustica semble déterminée par aussi la part d'artisanat qu'elle comprenait.
Alors, ce qui est important de voir, moi, c'est la vision que j'ai maintenant de ces occupations du sol dans les campagnes, c'est que c'est un tout. La pars urbana va avec la pars rustica et inversement. On ne peut pas les opposer. Ça a été construit en même temps. Ça fonctionne ensemble. Oui, ça va dépendre. Ce qu'on retrouve dedans va surtout dépendre de l'activité de ces campagnes. Et du coup, mon travail est d'essayer de comprendre, à travers les équipements qu'on va fouiller et qu'on va réussir à caractériser, comprendre quelle était l'activité de cet établissement. Puisqu'ils ne sont pas un, mais multiples. Chacun va avoir une activité sûrement différente, à des vocations différentes.
J'aimerais terminer sur ces notions d'historiographie avec vous, Léa Hermenot. Effectivement, donc dans les villes, et notamment pour le médiéval, vous dites que l'archéologie s'y intéresse depuis peu de temps finalement.
Effectivement, l'archéologie urbaine, tout comme l'archéologie médiévale, en fait, est assez récente. Alors, longtemps, les archéologues ont été très, très, surtout intéressés en fait par la phase antique des villes et ont eu tendance à un petit peu laisser de côté les vestiges médiévaux qu'ils considéraient peut-être moins intéressants. Il y a des modes comme ça dans les sciences, c'est tout à fait normal. L'archéologie médiévale, en fait, et l'archéologie urbaine commencent à naître au milieu du XIXe siècle. Mais c'est une approche qui va être essentiellement monumentale, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des petits bouts de la ville. On va beaucoup s'intéresser aux églises, aux cathédrales, aux très belles maisons, en tout cas vraiment les monuments. Voilà, on n'a pas du tout de vision d'ensemble de la ville. Puis après la Seconde Guerre mondiale et les destructions importantes qui ont suivi cette guerre, les communes de façon générale se lancent dans des reconstructions de notamment des centres-villes. Pendant cette période, donc en gros dans les années 60-70, il y a plusieurs grands scandales archéologiques, c'est-à-dire que parce qu'il faut reconstruire vite et on le comprend bien sûr, les vestiges en fait ne sont pas du tout fouillés, ils sont retirés de manière un peu brutale. Ces situations vont choquer en fait beaucoup de gens, donc non seulement les universitaires, quelques politiques, mais également aussi la population urbaine qui va s'inquiéter de voir partir comme ça une bonne partie du passé des villes. Ces grands scandales, il y en a eu plusieurs. Il y a par exemple le scandale du centre Bourse à Marseille. Les aménageurs sont tombés sur les vestiges des ports grecs et antiques de Marseille, chose que l'on ne connaissait en fait pratiquement pas.
Et quand vous dites les aménageurs pour le public, c'est...
Alors en fait, c'est les gens qui construisent en fait tout simplement les bâtiments, les entreprises. Autre scandale aussi, c'est celui des Halles à Paris. Le forum était, enfin, les Halles du coup devaient être reconstruites et on a commencé à creuser très profondément dans les Halles pour construire justement le forum des Halles que l'on connaît aujourd'hui, en retirant en fait toute la sédimentation archéologique qui s'était accumulée depuis plusieurs, presque deux millénaires en fait. Hein. Les Halles, c'est vraiment le cœur de la ville, c'est le grand marché, c'est le Rungis d'aujourd'hui. C'est là où ont lieu tous les échanges. Et on a purement et simplement retiré toute cette sédimentation qui a été accumulée pendant ces années. Et donc, du coup, on a privé les archéologues de la possibilité de pouvoir justement comprendre comment fonctionnait cette zone, ce cœur de Paris. Suite à ces grands scandales archéologiques-là, il y a eu tout un arsenal législatif qui s'est mis en place. Il y a des équipes d'archéologues professionnels qui ont été constituées et qui ont pu commencer donc du coup à fouiller un petit peu autrement, à reprendre un petit peu la main sur les vestiges et parce qu'ils ont bénéficié d'un arsenal législatif qui a permis de protéger les vestiges, ont permis de vraiment les exploiter. Ceci ajouté à un autre fait, lors des chantiers archéologiques à Londres dans les années 70, ont été expérimentées des méthodes un petit peu différentes, notamment une approche de la stratigraphie qui changeait un peu de ce que l'on faisait auparavant. Et il y a beaucoup d'archéologues français qui ont été en Angleterre fouiller, faire des stages archéologiques, comme on peut faire aussi de nos jours, qui ont rapporté en France des nouvelles méthodes et des nouvelles façons de penser. Et on s'est dit, on s'est commencé à penser, à vouloir penser la ville non plus de façon parcellisée, morcellisée, c'est-à-dire un bâtiment, puis un autre, mais essayer de mettre tout en relation pour essayer d'avoir une approche globale de la ville. C'est ce qui a fait dire à un archéologue, notamment qui s'appelle Henri Galinier, qu'on commence, donc à partir des années 70, à faire non plus de l'archéologie dans la ville, mais de l'archéologie de la ville. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de comprendre la ville dans sa globalité, ce qui implique aussi de comprendre comment est-ce que la ville interagit avec son contexte, et donc la banlieue, et aussi, pourquoi pas, le milieu rural qui l'entoure.
Bon, alors je sais que tous les deux, Guillaume Itterel et Léa Hermenot, vous travaillez sur les notions de relations économiques, et puis vous les remettez un peu en question. De quelle manière vous le faites ?
Vas-y.
Guillaume Itterel.
Oui, effectivement, une des idées de mon travail est de voir quelles sont les activités des campagnes, mais du coup, implicitement, quelles sont celles de la ville et quel est le lien entre les deux. D'un point de vue économique, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une continuité ville-campagne et qu'on peut pas les opposer puisqu'ils fonctionnent ensemble véritablement. Par exemple, on peut voir que les activités agricoles ont pénétré dans la ville, puisque je reviens sur les études environnementales et notamment les études carpologiques, montrent bien que dans les villes, on a des vergers, des potagers. Également, je prendrai un cas particulier, celui de Reims, donc un oppida gaulois qui devient un chef-lieu romain. On a fouillé dans la zone périurbaine, justement, donc cette interface un peu ville-champ, on a fouillé des vergers, mais pas des vergers qui appartiennent comme ça, qui sont à une production domestique, des vergers qui sont très orthonormés et qui semblent rentrer dans une production destinée à une consommation, à une vente. Et donc là, est-ce que finalement on est dans la ville, puisqu'on est dans le périurbain, ou est-ce qu'on est dans les champs, dans la campagne ? C'est difficile à dire.
Et vous dites aussi que, donc, en général, la campagne est censée produire les matières premières, et puis qu'il y a donc dans les villes, ou dans ce qu'on pourrait appeler des zones urbaines, des lieux de transformation.
Oui, alors ça c'est vrai que c'est un peu la théorie de base, on va dire, comme quoi les campagnes, donc à travers les villas, les fermes, produisent les matières premières, agricole, animal, ou même pour l'artisanat. Et ces matières premières, entre guillemets, presque brutes, vont être amenées en ville où elles vont être soit consommées, soit transformées, donc l'artisanat. Je pense qu'on peut en partie remettre en cause cette théorie aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que, donc, d'une part, les activités agricoles ont pénétré dans les villes, et d'autre part, qu'on a sur des établissements ruraux, en pleine campagne, j'ai envie de dire, on a des activités artisanales. Donc souvent, la difficulté, c'est qu'on a du mal à les repérer, parce que les indices archéologiques peuvent être très faibles, notamment, par exemple, des fosses qui auraient pu servir à faire tremper de l'osier, par exemple, avant de faire de la vannerie. Donc c'est des indices qui nous échappent souvent. Mais justement, dans l'iconographie, on a la représentation d'activités artisanales, notamment pendant l'hiver. Et donc on pourrait se poser cette question, parce que finalement, certaines villas, certains établissements ruraux n'ont pas une activité artisanale que certaines villes ont également. Finalement, c'est peut-être pas si simple que ça. Et après, il y a forcément une interaction qui joue, puisque les chaînes opératoires d'une production donnée va sûrement, dans certains cas, être scindée en deux, avec une partie qu'on peut imputer aux campagnes et une autre partie aux villes.
Léa Hermenot, vous expliquez également dans votre thèse que la naissance des villes pourrait être liée au rôle des flux économiques et humains.
Alors la question de la naissance des villes est une question aussi un peu complexe. Il y a plusieurs courants, notamment l'historien Henri Pirenne, qui est au début du XXe siècle, en fait, il se posait la question justement. En fait, on a donc en gros les cités de la période antique, et puis ensuite on a des villes comme ça qui naissent au cours du premier Moyen Âge. Et il se demandait pourquoi est-ce que ces villes naissaient à ce moment-là, pourquoi cet endroit-là, etc. Et en fait, il a mis en relation la naissance de ces villes avec l'existence de carrefours commerciaux. À certains points nodaux, en fait, des circuits de circulation qui traversaient le territoire. Donc du coup, il a mis en lien rassemblement de la population et donc construction et constitution d'un tissu particulier que l'on peut caractériser d'urbain. Donc les fonctions économiques sont effectivement au cœur de la définition de la ville et au cœur du fonctionnement de la ville. Mais il n'y a pas non plus que les fonctions économiques. Il y a aussi d'autres fonctions, comme par exemple la fonction enfin, liée au, en fait, à, au pouvoir, et la fonction religieuse aussi. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure du couple densité-diversité pour définir la ville, dans diversité, ce qu'on entend, c'est diversité des fonctions. C'est-à-dire que dans un même pôle, en fait, sont rassemblées donc à la fois des fonctions commerciales, des fonctions de pouvoir et aussi des fonctions religieuses. La fonction politique peut aussi parfois donner naissance à des courants commerciaux. C'est-à-dire que je vois par exemple le cas de la ville de Compiègne, qui est une résidence royale en fait au début du Moyen Âge. Mm-hmm. Ça va attirer beaucoup de gens. Les gens vont s'installer. Ça va être un pôle, voilà, un pôle un peu d'attraction. Et donc du coup, ça va donner naissance en fait à un tissu urbain.
Puis vous parlez aussi des flux, hein. Votre question dans votre thèse principale, c'est comment le mouvement finalement façonne la ville, et notamment dans Paris.
Paradoxalement, la ville, en fait, c'est un endroit où on passe, mais c'est un endroit où, où les choses se tassent, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est là où il y a plus de mouvement qu'on a quelque chose qui va se rigidifier, en fait, quelque part. Et donc ça, on le sait, mais moi, ce que j'aimerais bien essayer de faire dans mon travail de thèse, c'est essayer de préciser un petit peu toute cette question-là. C'est-à-dire que, concrètement, sur le très long terme, comment est-ce que la ville se constitue par rapport au mouvement? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Comment est-ce que ça va se densifier? Est-ce que le tissu urbain va se densifier de la même façon au bord des rues et en fond d'îlot ou dans des rues très secondaires? Et donc on voit qu'il y a des choses qui vont se passer un petit peu différentes en bord des rues. Par exemple, la densification est telle que l'on va parfois renoncer à pouvoir faire rentrer sa charrette dans le fond de son jardin. On va boucher sa porte cochère parce que pression foncière oblige, il est plus rentable d'installer une boutique à la place de la porte cochère. Et ça montre bien comment est-ce que l'espace se densifie et comment est-ce qu'on passe en fait d'un fonctionnement du territoire, on va dire rural, c'est-à-dire quelque chose qui est un tissu aéré, avec une densité moindre, avec une circulation qui va être facilitée, à quelque chose de vraiment typiquement urbain, avec une circulation très contraignante, et donc beaucoup plus de gens dans un plus petit espace.
Et alors, autour de quoi ces flux sont-ils concentrés, et comment les gens affluent-ils?
C'est une question complexe. Il y a des pôles, en fait, auxquels il faut parvenir à accéder. Ces grands pôles, ce sont les grandes places de marché et ce sont aussi les voies de franchissement du fleuve. Parce que jusqu'à très tardivement, en fait, on a un seul point de franchissement de la Seine. On doit passer par un seul pont. Le petit pont, pour passer en fait de la rive gauche à l'île de la Cité, vous avez le petit pont. Et puis ensuite, de l'île de la Cité à la rive gauche, vous avez le pont Notre-Dame. Et donc, du coup, vous avez un flux énorme qui doit passer dans une petite voie qui doit faire, je ne sais pas moi, 4-5 mètres de large ou quelque chose comme ça. Donc, ça va concentrer énormément de population. Et cela va avoir un impact sur ce qui va se passer juste avant le pont ou juste après le pont. C'est-à-dire, quand vous avez un afflux énorme de personnes, ça fait un marché qui est d'autant plus important et auprès duquel vont se presser les commerçants, parce que justement il faut être au plus près de l'activité. Et donc tout cela va avoir une influence sur la manière dont le tissu urbain va se former auprès de ces flux qui drainent en fait toute la ville.
April in Paris. Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to?
Pour terminer sur ces questions de relations entre ville et campagne, j'aimerais qu'on l'aborde rapidement dans le temps. Guillaume Mutorel, donc vous travaillez sur les mondes gallo-romains, donc vous avez possibilité d'avoir une vision de ce qui se passe avant les Romains, et puis comment ils ont transformé justement les mondes ruraux et urbains.
Alain Ville en a parlé un peu tout à l'heure, de ces fameux oppidas, ces sites fortifiés gaulois, et on connaît également des agglomérations ouvertes. Effectivement, la conquête et après donc César et surtout Auguste, ça va un peu tout bouleverser à ce niveau-là. Mais c'est pas pour autant que ça va tout changer. Déjà, ils vont s'appuyer sur ce qui existe, puisque effectivement, on a plus cette vision négative qu'on avait des Gaulois. Ils ont un réseau urbain, rural et viaire qui est très dense, qui est très développé déjà. Et donc, les Romains vont s'appuyer sur ce réseau qui existe. Pour les villes, on va avoir des cas qui vont être différents. Donc, on va avoir des villes qui vont se superposer aux agglomérations, on va dire, gauloises. Donc, c'est le cas pour Reims, par exemple. Ensuite, on va avoir des créations ex nihilo, à partir de rien. Dans la péninsule bretonne, où on a 4 chefs-lieux de cités romains, donc Rennes, Vannes, Carhaix et Corcel, qui se basent sur aucune agglomération gauloise. Et enfin, on va avoir des phénomènes de déplacement, c'est-à-dire ça va pas être une superposition exacte, mais un déplacement de l'occupation gauloise. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les flux, puisque souvent ces déplacements, ils sont là pour se rapprocher des voies de communication. Finalement, on a un schéma qui est assez semblable pour les campagnes, où on a des établissements ruraux qui vont succéder à des établissements gaulois, d'autres qui vont être créés ex nihilo, et d'autres qui vont subir des déplacements, puisqu'ils vont aller sur une topographie qui est meilleure pour l'agriculture, ou tout simplement se rapprocher de voies de communication.
Et alors, à la fin de cette époque gallo-romaine, on voit l'apparition du christianisme. Comment est-ce que ça va chambouler finalement la forme des villes et des campagnes à ce moment-là?
La ville du Bas-Empire va être quand même, c'est vrai, différente, puisque la ville est en constante évolution. Et on va souvent avoir une rétractation de la ville, des phénomènes de ce type-là. Je pense que Léa...
Alors Léa Hermenot. Effectivement, oui, la rétraction, ce qu'on appelle la rétraction urbaine, c'est-à-dire qu'au moment du Bas-Empire, on construit des enceintes, en fait, pour se protéger en fait des invasions qui viennent de l'extérieur de l'Empire. Du coup, le tissu urbain se rétracte comme ça au sein de l'enceinte. Donc on a longtemps cru que cela signifiait qu'une bonne partie des villes, enfin du reste de la ville, en fait, était abandonnée ou désertée. En fait, l'archéologie montre justement que non, c'est pas forcément le cas. Il y a certes une rétraction, mais ça ne veut pas forcément dire que la zone périurbaine est pour autant déserté. Ce que nous montre ça, c'est la question des terres noires. Et ça, c'est vraiment un apport de l'archéologie, notamment archéologie environnementale récente, sur lequel il est, je pense, assez intéressant de revenir. Les terres noires, ce sont ces stratigraphies très sombres que l'on trouve à peu près sur tous les sites urbains, entre en gros le 5e et le 11e siècle. Ce sont des niveaux qui sont homogènes, dans lesquels on n'arrive pas à percevoir de stratigraphie, mais ce sont des niveaux qui peuvent être assez épais, hein, entre 50 cm et plusieurs mètres d'épaisseur. Et on a longtemps cru, comme cet aspect noir, cet aspect peu stratifié, on a longtemps cru que c'était de la terre à jardin, c'est-à-dire des remblais, une terre comme ça qu'on a amenée pour faire de la terre à jardin. Et ce qui participait du fait de la dépréciation du phénomène urbain au premier Moyen-Âge. On s'est dit, mince, s'ils ramènent autant de terre à jardin, c'est vraiment qu'il ne devait plus y avoir grand monde et qu'on ne devait plus y faire grand-chose d'intéressant. Les archéologues, et notamment ce qu'on appelle les archéologues, c'est-à-dire les spécialistes de l'analyse de la sédimentation des sols, ont montré que quand on regarde cette terre-là avec, non pas nos yeux, mais avec des microscopes, on se rend compte qu'en fait, ça peut être de la terre à jardin parfois, mais la plupart du temps, c'est pas forcément ça. C'est juste qu'il y a eu une façon autre de vivre en ville, notamment une gestion des déchets autres à cette période-là, dont a été issue cette sédimentation particulière. Mais en fait, elle ne signifie pas ce dépôt de sédimentation une désertion, mais au contraire, une activité vraiment non négligeable. Et cette terre-là, c'est son terre noire, on les trouve justement à la fois dans la ville, enfin dans la ville enclose et à l'extérieur. Cela a permis de reconsidérer le phénomène urbain à ces périodes-là. Pour revenir sur la question de la christianisation, de façon générale, les morts à la période antique étaient exclus de la ville. Ils étaient enterrés le long des grandes voies à l'extérieur de la ville. On séparait bien les morts et les vivants. Au début du christianisme, il y a eu tout un tas de martyrs qui ont été donc enterrés dans ces nécropoles qui se situaient à l'extérieur de la ville. Et s'est développé un culte des saints. Les gens avaient envie de se rapprocher de ces saints hommes et ces saintes femmes et se sont créés en fait ce qu'on appelle des mémoria, c'est-à-dire des lieux de culte de ces saints. Et ces lieux de culte, en fait, sont devenus peu à peu des pôles attractifs. C'est-à-dire que comme il y avait du monde, il y a des commerçants, il y a des gens qui s'y sont installés. Et donc, du coup, il y a encore eu plus de monde qui s'est installé, etc., etc. Parfois, des communautés monastiques qui avaient pas mal de pouvoir et d'argent se sont installées à ces endroits-là. Et donc, du coup, on donnait naissance à des petits pôles urbains à l'extérieur de la ville. Et donc c'est comme ça que durant le premier Moyen-Âge, donc en gros entre le 5e et le 11e siècle, on a des petites choses qui bourgeonnent comme ça tout autour des villes et qui vont en fait donner naissance à des faubourgs et qui vont peu à peu être ensuite au cours du 12e, 13e siècle, 14e siècle, être inclus dans le tissu urbain qui se développe en fait. Donc on a un développement très particulier lié justement à des pratiques, aux pratiques chrétiennes.
Pour justement conclure sur la question des différences entre les conceptions qu'on a finalement des villes et des campagnes aujourd'hui et comment les recherches archéologiques remettent en question ces données. Guillaume Littorel, vous venez de le dire justement, il y a des choses qu'on retrouve, hein, du rural qu'on retrouve dans ce qu'on considère comme étant des villes. Léa Hermenot également, vous parlez de ce genre de choses, hein, quand vous parlez de la question des faubourgs, notamment la mue de certains espaces ruraux en espaces urbains. Guillaume Littorel, j'aimerais revenir sur un chantier sur lequel vous avez travaillé à Châteaubleau, qui est, si je ne me trompe pas, un théâtre.
Justement, c'est une agglomération sanctuaire. Ou un centre culturel. Voilà. Tout dépend de justement de la manière dont on le caractérise. C'est-à-dire que là, on peut avoir cette difficulté à définir ce qui est ville ou ce qui est campagne. Souvent, cette agglomération va être mise dans les agglomérations secondaires, comme agglomération sanctuaire, puisqu'en fait, on connaît plusieurs temples et un théâtre, donc un théâtre qui est avant tout un lieu culturel plus qu'un lieu public, hein. Mais finalement, quand on utilise le terme d'agglomération sanctuaire, on va mettre en premier, en exergue, le côté agglomération. Donc effectivement, on a des quartiers d'habitat, mais on n'a pas ce qui pourrait caractériser une ville romaine telle qu'on l'entend. On n'a pas encore la nécropole, pas de forum, pas de terme public. Donc là, est-ce qu'on est dans la ville ou non, c'est difficile. Donc souvent, on préfère le terme de, par exemple, centre culturel, puisqu'on pourrait imaginer plus aisément qu'on a d'abord un pôle culturel qui est très important, peut-être d'origine gauloise, et on aurait un habitat qui aurait été attiré par ce pôle culturel. Donc, est-ce qu'il faut mettre d'abord en exergue le côté agglomération ou d'abord le côté cultuel? Et donc, est-ce qu'on est finalement dans une ville ou est-ce qu'on est dans une occupation de la campagne gallo-romaine?
Bon, mais je pense que on peut conclure en tout cas sur le fait que la ville et le rural changent, hein, selon les époques. C'est difficile de définir finalement ce qu'ils sont. Et puis, surtout, c'est important de comprendre que les deux fonctionnent l'un avec l'autre. Il y a une complémentarité nécessaire.
Alors, je vais me tourner maintenant vers le public pour savoir si vous aviez des questions.
Juste évoquer quelque chose, c'est qu'en fait, quand on parle de la ville et de la campagne de nos jours, on parle beaucoup d'antagonisme et on y associe, comme vous aviez dit, le périurbain. Et que quand on vous écoute, quel que soit visiblement, et ça je pense jusqu'à l'époque industrielle, on a l'impression qu'il y a plus d'interactions, qu'il y a plus d'une part et d'autre, et la ville et la campagne, et qu'il y a un flux permanent et un enrichissement permanent, et une permanence également de la campagne dans la ville, ce qui est une tentative actuelle de notre génération, de notre époque de réinstaurer, qui n'a pas été le cas en tout cas entre les années 50 jusqu'à nos jours. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Et puis peut-être aussi que vous avez parlé de densité et qu'il y a peut-être aussi une question de temps et que le temps n'est peut-être pas le même à la ville et le temps à la campagne. Il y a peut-être des choses qui se sont accélérées sur la ville et moins sur la campagne. Enfin, c'était juste une réflexion.
Merci. Est-ce que l'un de vous devait réagir, Guillaume Littorel?
Oui, ça me fait penser à une chose importante qu'il faut souligner, et je pense que là, c'est identique de même avant la période que j'étudie et après même la période médiévale, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans ces époques historiques, la population est surtout rurale, finalement, alors que nous, maintenant, on a une population qui est surtout urbaine. On pense peut-être plus à une population qui habite en ville, etc. Or, il faut vraiment se rappeler qu'on a... On a un pourcentage très très important de la population romaine et après médiévale, etc., qui est rurale, qui habite en campagne et qui travaille en campagne.
Oui, je voulais juste dire que c'est vrai que l'un des apports de l'archéologie, c'est aussi justement de contrebalancer un petit peu ces visions très dichotomiques qu'on avait entre la ville et la campagne. Quand on regarde notamment les iconographies à partir du XIVe siècle, on a vraiment la distinction entre la ville et la campagne qui est vraiment bien représentée. En fait, vous avez la ville qui est vraiment dans l'enceinte, et puis tout d'un coup, on passe à quelque chose de complètement différent, les champs à perte de vue. C'est notamment le cas sur la fresque du bon gouvernement dans le palais de Sienne qui a été réalisé par le Lorenzetti au milieu du XIVe siècle. C'est une des premières représentations, enfin c'est comme ça que les historiens de l'art datent de cette époque, la première représentation de ce couple ville-campagne. Et justement, l'archéologie est là pour dire que entre la façon dont les gens s'imaginaient la division des territoires et telle qu'elle apparaissait dans les définitions juridiques, eh bien, au-delà de ça, il y avait des échanges dont on n'avait pas forcément conscience, que l'on n'avait pas forcément envie de mettre en valeur. Et ça, l'archéologie en rend bien compte, en fait.
Est-ce qu'il n'y a pas une troisième partie, finalement, qu'on a peut-être oublié d'invoquer ici, qui n'est ni la ville ni la campagne, mais qui, pendant très longtemps, a quand même été extrêmement déployée dans les différentes contrées? C'est la forêt, enfin, les parties non exploitées par l'homme, qui jouaient, en fait, sans doute un rôle d'éloignement.
Oui, alors en fait, répulsif, pas tant que ça, en fait, hein, parce qu'on on s'aperçoit qu'il y a plein de mythes, il y a plein d'histoires autour des forêts, effectivement, mais en fait, quand on regarde ne serait-ce que le régime alimentaire des gens du Moyen-Âge, et notamment grâce à l'archéologie environnementale, quand on analyse dans les sites les restes, les écofacts, en fait, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plein de produits qui n'étaient pas forcément cultivés, mais les gens continuaient à pratiquer la cueillette, hein, et donc allaient beaucoup dans la forêt et allaient beaucoup cueillir, et c'était un apport assez considérable dans leur alimentation. Donc c'est des espaces vraiment essentiels pour la vie quotidienne des gens.
On va conclure. N'oubliez pas que ce week-end, ce sont les journées nationales d'archéologie. Donc allez-y, hein, il y a beaucoup d'événements qui vont être programmés un peu partout, et notamment ici au musée d'archéologie nationale. Et puis donc à bientôt pour une nouvelle émission. Merci.
Never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
I depended on you to tell me the truth.
Mama looked up with a tear in her eye and said, this was alone.